Bonjour tout le monde. Ce message est né pendant un temps de vacances, on parlait des vacances. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes frères et sœurs et dans ma lecture personnelle, parce que s'il y a une chose que j'emmène en vacances, à part le maillot de bain, les petits shorts et tout ça, bref, il y a surtout ma Bible, hein, absolument capitale, nécessaire. Et puis ce texte est venu. Aussi, je pense à l'Église, voilà, on traverse des moments de turbulence, et puis ce texte est venu, comme ça, pour nous encourager ensemble. Alors, on va dire que c'est un message de pré-rentrée. Hein, pour les enfants, c'est bientôt la rentrée. Peut-être certains d'entre vous reprendront le boulot demain, je sais. Croisez une sœur demain, alors courage. Et la lettre que je vous propose ce matin, elle se trouve dans Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. On va lire... Nous allons lire ensemble dans quelques instants le chapitre 13, où l'apôtre Paul s'adresse à cette église qu'il a créée. Il est prêt à se rendre à Corinthe pour la troisième fois. Des détracteurs, sèment le trouble dans l'église. Son ministère est contesté, il y a de faux apôtres. Il est inquiet, l'apôtre est inquiet de l'état spirituel de ceux qu'il chérit dans son cœur. Et quand je vais vous lire ces versets-là du chapitre 12, on se dit, ah ouais, quand même, c'est grave ce qui se passe. Chapitre 12 de 2 Corinthiens. Ouais, on médite 13, mais il y a un peu d'introduction, tu vois. Tout va bien. C'est l'introduction. Il faut suivre. Il dit au verset 20, je ne crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et tel que moi-même, d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains, il est dans la crainte, qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. C'est l'église du Dieu vivant, ça, hein, ça existe. Ça a existé de tout temps. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. Wow. Michel, où est-ce que tu veux nous emmener? Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Alors, avant de se rendre chez Corinthiens, l'apôtre lui écrit une lettre pleine d'amour, le cœur serré, avec bien des larmes. Son désir, ce n'est pas les attrister, mais c'est vraiment qu'ils reconnaissent, parce qu'on met en doute son ministère, sa puissance, etc., ses paroles. Il leur dit, mais connaissez la profondeur, l'extrême amour que j'ai pour vous. C'est pour ça qu'il écrit. Et donc, il décide de se rendre à Corinthe, cette église qu'il avait fondée, et son écrit est motivé par l'amour. Il n'exprime aucune animosité envers ceux qui l'attaquent. Ça, c'est pas mal, hein? Aucune animosité envers ceux qui l'attaquent. Son but, voilà, leur édification, le rejet des fausses doctrines, la restauration des relations. Il était beaucoup plus soucieux de les aider dans ce sens-là, pour la réconciliation, le bien de l'Église, plutôt que de défendre sa propre réputation. Ça aussi, on peut réfléchir. Hein. Son but, c'est quoi? Son but premier, c'est restaurer, construire, édifier l'Église, afin qu'elle grandisse à la ressemblance de Christ, plutôt que de défendre sa réputation. Alors, on va lire 2 Corinthiens 13. Rapidement. 13 versets, c'est pas long. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, je l'ai déjà dit aujourd'hui que je suis absent. Je l'ai dit encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de sa puissance, en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Examinez-vous vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pas pour que l'épreuve paraisse pour nous un succès, mais pour que vous fassiez le bien, pardon. même si pour nous l'épreuve semble être un échec. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi, absent, j'écris cela, afin que présent, je n'use pas de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et puis il termine, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le but de mon message ce matin, c'est de nous encourager à œuvrer au perfectionnement de notre vocation de disciple. Et cette idée principale est énoncée au verset 9. Ce que nous souhaitons dans nos prières, disait Paul, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses. Parce que son désir, c'est l'édification et non la destruction. Alors, comment l'apôtre va procéder dans cette période de crise, dans cette église qui a vraiment de grands troubles? Premièrement, il propose aux chrétiens de toute l'église un examen de conscience. Verset 5. Examinez vous-même. Est-ce que vous êtes dans la foi? Éprouvez vous-même. Reconnaissez-vous que vous êtes chrétien? Si vous cherchez, il leur dit, une preuve que Christ parle en moi, ben cherchez en vous-même. Moi, je parle au nom de Dieu pour la vérité. J'annonce Christ. Reconnaissez ce que je vous ai dit. Éprouvez-vous, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moi, je trouve que c'est pertinemment comme réponse. Il leur dit, mais cherchez vous-même la réponse. Et dans le grec, le terme éprouver, c'est assez intéressant. Il s'emploie pour décrire le contrôle de qualité qu'un fabricant exerce sur sa marchandise. Alors, les pièces conformes aux normes fixées par Dieu, en tout cas, sont approuvées. Allez, on met le tampon. Tandis que les autres sont rejetés, désapprouvés. Et Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 9 de sa première lettre, « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Ils sont en train de contester tout ça. « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. D'ailleurs, faites appel encore à votre mémoire quand j'étais chez vous. Je n'ai pas eu toutes ces preuves de mon apostolat. Elles ont éclaté, ces preuves, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve. Et il en faut de la patience, hein, quand on bataille. Des signes, des prodiges, des miracles. Tout ça, vous l'avez vu, Corinthiens. Vous êtes la preuve que Christ œuvre par moi, car je vous ai amené à lui, disait Paul. J'espère que vous me reconnaîtrez comme approuvé. Voilà, je passe le contrôle chez vous, approuvé. Comme porte-parole de Dieu. Et puis il leur dit, vous êtes une lettre ouverte, écrite dans mon cœur, que tout le monde peut connaître. Les Corinthiens étaient le fruit visible du travail d'implantation d'église de l'apôtre, parce que ils avaient abandonné leurs idoles. Les Corinthiens, c'était une ville très idolâtre, une débauche très connue de tout le bassin méditerranéen. Il n'y avait qu'à les regarder pour constater qu'ils ne vivaient plus comme les païens. Ils étaient bien la lettre de Christ que tout le monde pouvait connaître et lire. Comme les Corinthiens, on est la lettre de Christ, pas vrai, frères et sœurs, une lettre que Dieu adresse à ceux qui ne lisent pas la Bible, pour qu'ils aient sous leurs yeux un évangile vécu, c'est vous et moi. Que ceux qui ne connaissent pas Christ puissent avoir un évangile vécu quand ils vous regardent vivre. Alors on peut se poser deux questions. Faire son examen de conscience, j'allais dire, est-ce que on est manifestement une lettre de Christ? Est-ce que nous sommes suffisamment identifiables comme chrétiens autour de nous? J'espère que oui. Ceux qui nous entourent nous observent. Ils observent si nos paroles sont conformes à nos actes. Et puis chaque croyant, qu'il le veuille ou non, est un panneau publicitaire pour le christianisme. L'honneur de Christ est entre nos mains dans cette église. Un jeune homme s'était converti. C'était une session de prédication, tout ça, par le moyen d'un responsable de cette rencontre. Et puis deux ans plus tard, ce responsable qui avait prêché l'évangile, il se pose des questions, il s'inquiète pour ce jeune, il va le visiter chez lui. Mais le jeune, il était plein de fou pour le Seigneur. Il était plein de vie, ça se passait très bien. Il trouve que sa foi est heureuse et rayonnante, comme chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien. Je l'espère. Et puis il remarque toutefois dans sa chambre, il se dit, mais il n'y a pas de verset biblique pour un chrétien comme toi. Tu penses pas que tu pourrais mettre quelques versets bibliques, comme ça quand tes copains viennent te rendre visite, ils seront interpellés par les paroles de ton texte. Puis le jeune homme, il fait son plus beau sourire, il le regarde dans les yeux, il dit, mais c'est moi qui suis la lettre. Pas besoin de verset, je suis la lettre. C'est moi la lettre de Christ. Il a fait un examen honnête de sa foi. Si mes amis ne peuvent le lire à travers mon témoignage, si mes amis ne peuvent pas lire l'évangile, la gloire de Dieu, toutes ces réalités spirituelles, toutes ces promesses, cet amour, à travers mon témoignage, ça sert à rien que j'affiche des versets bibliques. Je suis un contre-témoignage. L'église de Corinthe était cette lettre ouverte de la vie de Christ en eux. Pourtant, ils vivaient de grands troubles, de grandes difficultés. Et quand j'ai préparé ce message, il m'est arrivé un truc que personne ne souhaite quand ça lui arrive. Deux jours avant de vous parler là, puis j'ouvre mon ordinateur. Cool, je suis pas très bon en ordi, hein. J'aurais pu le jeter par la fenêtre. Si je pouvais m'en passer au quotidien, bon, ça c'est pas le plus important. J'ouvre mon message et puis à la place d'avoir ces lettres bien disposées, lisibles et tout, en français, bon, il y avait que des croix partout. Tout avait disparu. Et quelquefois, nos vies, elles ressemblent à ça. On bug. C'est-à-dire, au lieu d'être une lettre ouverte de Christ, visible devant le trône de la grâce et devant mon église, mes frères et sœurs, et devant ceux du dehors, on bug tellement que c'est illisible. C'est la cacophonie. Alors, j'ai dû faire appel à ma mémoire, tout ça, et puis, ça va. J'ai pu retrouver un peu mon esprit, mes esprits. Question, sommes-nous manifestement une lettre de Christ ? Puis Dieu, c'est le grand réparateur de tout, hein. C'est vers lui qu'il faut aller pour se remettre d'aplomb, pour éprouver nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos intentions, et vivre comme des enfants de Dieu, selon la vocation que le Seigneur nous a donnée. Paul travaille à ce perfectionnement des relations. Et puis, une petite suggestion personnelle, nous pourrions, comme pour nos véhicules, hein, passer un contrôle technique, petit peu, afin d'examiner, d'éprouver attentivement la profondeur de notre foi, mon engagement dans l'Église, mes relations fraternelles. Faire un petit check-up comme ça, dans la prière avec le Seigneur, à travers la lecture de la parole. Puis autre question alors, ma relation personnelle avec Jésus est-elle au centre de ma vie? Comme l'a dit notre frère en introduction, est-ce que cette relation est au centre de ma vie? Quoi que je fasse, je mange, je dorme, est-ce que Christ est là? C'est pas toujours évident, je sais, nous sommes en chemin. Est-ce que mon engagement au sein de mon Église est-il encore motivé par mon désir de servir Christ en premier, de vivre la communion fraternelle? Est-ce que mon témoignage de vie est-il visible, connu par mes contemporains? Est-ce que j'ai à cœur d'annoncer l'Évangile? C'est le cœur, ça, de l'Évangile. Paul, il dit, perfectionnez-vous. Allez. Et puis, suite à cet examen de conscience qu'il demande à toute l'Église, il adresse une prière au verset 7 et au verset 9. Il intercède pour qu'il soit vainqueur du mal en faisant du bien. Ne faites rien de mal, oh là là, mes enfants, ne faites rien de mal. De la discorde, de l'animosité, il y a des tensions, tout ça. Ça bataille sec. Ne faites rien de mal. Recherchez le bien. Nous prions Dieu de tout notre cœur que vous ne fassiez rien de mal. Pour que vous ne fassiez rien de mal, mais pour que vous fassiez le bien, c'est le but. Il intercède pour qu'il soit vainqueur du mal en faisant le bien. Et puis il souhaite également, dans sa requête au verset 9, c'est le perfectionnement. C'est intéressant dans ce mot parce que c'est son deuxième objectif, le perfectionnement de l'Église. Ça signifie réparer quelque chose, faire une mise au point, obtenir une guérison. Apparemment, si je lis bien les textes, hein, les commentaires, c'est ça. Donc l'apôtre Paul, son but, c'est de faire une mise au point dans l'Église, c'est d'obtenir des guérisons, de réparer ce qui est cassé, dans les relations en tout cas. Ça se passe au niveau des relations. C'est tout à fait ce dont avaient besoin les Corinthiens pour sortir de la crise, c'est pour se perfectionner, pour travailler à la relation des cœurs, à la réparation des cœurs. Ils avaient besoin ensemble du concours du Seigneur par l'Esprit Saint, en agissant, parce que Dieu agissait dans leur cœur, ils avaient besoin pour travailler à ce perfectionnement, à cette réparation, de prier ensemble. C'était à genoux, avec humilité, que le combat devait se mener pour une mise au point concluante et ainsi faire tout leur possible pour endiguer la crise qui sévissait au sein de l'Église, dans la prière, à genoux. On l'a fait il n'y a pas si longtemps. Un dimanche matin, on s'est tous rassemblés et on a prié. Merci Seigneur pour de telles dispositions. On a besoin de sagesse pour mettre en pratique l'enseignement de l'apôtre sur l'importance de la prière, du temps qu'on passe ensemble à genoux devant le Seigneur. On intercède les uns pour les autres. On prie pour le bien de l'Église. On peut aussi prier et dire « Seigneur, moi j'ai pour objectif le perfectionnement des relations. Je suis pas très bon dans les relations. Je suis des fois un peu tac-tac acerbe. Seigneur, perfectionne mon âme, perfectionne mon cœur, pour que les relations fraternelles soient toujours au beau fixe, de progrès en progrès. Pour qu'on puisse pratiquer le bien envers les autres, prendre soin les uns des autres. On parle beaucoup des uns des autres en ce moment. Ainsi, on donne plus accès aux malins qui cherchent à diviser et meurtrir les enfants. On a ce caractère des fois, la chair qui revient au galop. Prions que cette chair soit écrasée et que c'est notre caractère de chrétien qui, les fruits de l'esprit qui émergent. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, disait cet apôtre, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillons à notre conduite, veillons à nos relations, à nos interactions. C'est important. On peut causer de grands dégâts. Et Paul était conscient que sa lettre était sévère, ok. Sans concession, d'accord. Mais il recherchait tout à édifier l'Église et non à les accabler, verset 10. Et puis il leur dira, après cet exposé magistral, au verset 11, malgré tout ce qu'il leur dit, il les exhorte, ne perdez pas courage, soyez dans la joie. Vu le contexte, c'est étonnant, quoi. L'Église est en crise, il leur dit, soyez dans la joie, mais ça colle pas. Nous le savons bien, notre joie est spirituelle. Elle n'est pas liée aux circonstances, mais elle est liée à notre position glorieuse en Christ. Depuis notre conversion, elle est liée à l'espérance de la vie éternelle, cette joie. Cette joie découle de la présence du Saint-Esprit et chacun et chacune d'entre nous qui un jour a fléchi les genoux devant Christ a reçu le pardon des péchés. Il reçoit le Saint-Esprit et la joie fait partie du fruit de cet esprit. On doit le développer. Avec son aide, dans la prière, dans la communion les uns avec les autres. Cette joie se cultive, elle se perfectionne dans l'intimité avec Christ, il n'y a pas secret. Plus on passe du temps à lire la parole de Dieu, dans la prière, dans sa compagnie, dans son intimité, et bien plus on est émerveillé de sa splendeur, de son amour, de son salut, etc. etc. Il n'y a pas assez de qualificatifs tellement il y en aurait. Plus nous nous situons spirituellement dans une joie complète, confiante. Parce qu'on passe du temps avec Christ dans la prière, indépendamment de tout ce qui se passe autour de nous, et il y a de quoi être malheureux, il y a de quoi être triste, il y a de quoi se faire du souci, que ce soit dans l'Église, à l'extérieur. Et pourtant, on peut être dans cette joie, parce qu'on est dans cette position inébranlable en Jésus-Christ. Et un jour, on vivra l'éternité à ses côtés. Alors, le troisième objectif de Paul, le deuxième, c'était le perfectionnement de l'Église. Maintenant, il souligne dans ce verset 11 trois attitudes qui ont à voir avec les rapports humains. Le premier, c'est consolez-vous. Ne vous laissez pas abattre par la situation accablante que vous traversez, ni même par les sentiments de vos péchés. Vous portez le consolateur en vous. Malgré l'accablement qui vous traverse, vous vivez rempli du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup citer ce passage dans Psaume 94 qui dit « Quand une foule de préoccupations s'ajoute au-dedans de toi, mettez consolation, réjouisse mon cœur. » Des consolations qui viennent du trône de la grâce peuvent consoler mon cœur quand je suis accablé d'une situation qui se vit dans l'Église, dans ma vie personnelle, à l'extérieur. Parce qu'un jour, Dieu habitera avec nous et nous serons son peuple. Et Dieu lui-même sera avec nous, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus de deuil, ni cri, ni douleur. Combien c'est précieux des fois qu'on est attristé de pouvoir trouver la consolation auprès du Seigneur. Combien ça fait du bien. Et de pouvoir, même si c'est pas tellement le sujet, mais de pouvoir trouver la consolation chez un frère, chez une sœur. On peut se rendre visite et porter le fardeau ensemble, se consoler mutuellement. Gilbert a, voilà, ils ont dû enterrer sa maman, là, il y a quelques jours. Eh bien, des frères et sœurs ont pu aller le visiter, ont pu être à cet enterrement. Ça fait du bien. Voilà, chacun et chacune expérimenté. Je peux vous dire que je regardais dans la salle et dès que je voyais un frère ou une sœur de l'église présent lors de cet enterrement pour ma maman ou d'autres, j'étais là, ah, ça fait du bien, ils sont là, ma famille est présente. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça peut nous coûter du temps, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'engager, d'avoir des intentions comme ça, de trouver la consolation en Christ, de trouver la consolation par l'intervention du Saint-Esprit et d'aller avec son aide consoler le frère et la sœur. Une visite, un coup de téléphone, un mail. Bon, c'est pas toujours personnel, mais quand même, on peut faire. Et puis l'apôtre Paul leur dit deuxièmement, progressez dans votre service dans l'Église. Ayez une même pensée. Philippiens 2, verset 1 nous dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça c'est pour nous. Même pas besoin de commentaires, ça suffit, on comprend. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, ah c'est intéressant ça, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Là je suis au-dessus, je suis sur une estrade. Non, regardez les autres comme au-dessus de vous. Humilité, amour, bienveillance. Et chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et il y a du chemin à faire. Dans un monde individualiste, on peut prendre le contre-pied, manifester notre intérêt pour celui et celle qui, même si j'apprécie moins bien, eh ben je passe l'éternité avec elle un jour. J'ai des préférences, comme tout le monde. On passera l'éternité ensemble. Ayons des dispositions bienveillantes les uns, les autres. Une même pensée. Un même cœur, un même amour. Encourageons-nous mutuellement à nous aimer de l'amour de Christ qui vient en nous. L'amour de Christ a été répandu dans nos cœurs, qu'il puisse découler dans nos rapports humains, c'est ce qu'il veut, Paul. Ayons cette même pensée, proclamer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Là-dessus, on est tous d'accord. On peut avoir des points de divergence, mais là-dessus, on est tous d'accord. Proclamer Jésus-Christ à la face de ce monde. Tel doit être l'objectif suprême de chacun de nous. Et on a besoin les uns les autres pour mettre en œuvre ce programme-là. Ce projet tellement glorieux. Et puis si on veut progresser pour le maintien de l'unité, avoir une même pensée, se consoler, etc. Mais il y a aussi ce point-là que Paul, toujours au même verset 11, « Vivons en paix. » J'aspire à la paix, vous ne vous rendez pas compte. J'aspire à la paix de plus en plus. Hé Chantal, je pense que tu es d'accord avec moi, plus on vieillit, on mûrit, pardon, plus on aspire à la paix. Peut-être parce qu'on est passé par tellement de tribulations qu'on fait tout pour être en paix les uns avec les autres. C'est bon pour mon corps, c'est bon pour mon âme, pour mon esprit. Mais le Seigneur nous demande, le monde ne sait pas donner la paix. Mais Christ il dit, que ma paix soit avec vous. Et pourtant Jésus il allait passer des moments terrifiants. Il devait passer la Gethsémané, la croix. Il est en paix. Cette paix glorieuse qui vient du ciel, cette paix nous est donnée. Quand j'ai parlé de paix à un des détenus pendant le culte, il me regardait avec grands yeux, il dit « Quoi la paix ? J'ai pas la paix. Nous avons la paix. On n'a rien fait pour, on l'a reçue, c'est un fruit de l'esprit. Dieu nous a confié cette paix, vivons en paix les uns avec les autres, recherchons à être des artisans de paix. Quand je vois mon frère, ma sœur pour lui dire un truc qui va pas, réfléchissons, examinons nos intentions. Dans quel but j'y vais ? Je veux l'humilier ou je veux le gagner à Christ ? Travaillons le lien de la paix autant que cela dépend de nous. Soyons en paix les uns avec les autres. Parce que le monde nous regarde encore une fois. Si nous, on n'est pas en paix dans l'église, ça colle pas. Ça va pas. C'est comme si on disait à Jésus, écoute, tu nous donnes la joie et la paix, et puis on vit pas ni de joie ni de paix, alors tu es incapable de faire ça en nous. Je crois que le problème, il vient de nous, pas de Dieu, on est d'accord. Cultivons ce fruit de l'esprit si précieux. Le monde ne connaît pas la paix de Christ. Recherchons à nous perfectionner dans ce domaine, perfectionner. On est en marche. Je vais vous lire un petit passage dans Éphésiens 4 où il dit, Éphésiens 4, verset 31-32, qui dit, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. » Il parle encore des chrétiens. « Soyons bons les uns vers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour nous offrandes et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Marchez dans l'amour, recherchez la paix. » Une promesse merveilleuse nous est donnée, il est dit au verset 11, « Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Quelle grâce! Alors, en conclusion, pas tout à fait, on y est presque. L'apôtre, alors, il cherche à unifier l'Église, à cimenter les relations, à colmater les brèches, à réparer les blessures. Et pour ce faire, il faut travailler au perfectionnement, c'est-à-dire la qualité. Quelle qualité on met en œuvre pour vérifier tout ça. Perfectionnons nos relations, prions pour que le Seigneur nous maintienne dans la paix, dans l'unité. Et puis deuxièmement, son désir, son souhait, c'est le perfectionnement personnel. Parce que si je grandis dans la joie, dans l'amour, dans la paix, etc., le fruit de l'esprit, ça se répercute dans mes relations avec mes frères, avec mes sœurs. L'apôtre Paul disait « J'ai pas atteint le but encore, mais je cours vers la vocation. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous aimez l'athlétisme. Là, en ce moment, je regarde les championnats du monde d'athlétisme. Vous voyez les corps des athlètes, waouh, des heures, des années de travail pour arriver à ce résultat. De régime, de machin, ils s'astreignent pour le but, passer la ligne d'arrivée. En chemin, nous sommes en chemin. Le premier. La première. Et ça, notre vie spirituelle, c'est ça. On devrait essayer de bonifier notre âme, notre corps, notre esprit pour la gloire de Dieu. Essayer de grandir, de perfectionner tout ça pour que le fruit de l'esprit se manifeste, nos relations soient bonifiées, soient en paix, etc. Faisons comme ces athlètes, travaillons, progressons de chemin en chemin. Éphésiens nous dit ceci, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre corps. Rendez toujours grâce pour Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. » Etc. Que le Seigneur, alors nous, en conclusion, nous transforme, nous perfectionne. Non pas pour être orgueilleux, mais pour le refléter de progrès en progrès, pour simplement la gloire de son nom. Et c'est pourquoi, bien-aimé, disait l'apôtre Pierre, en attendant le retour glorieux de Christ, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tâche, répréhensibles dans la paix. Et je termine par le verset 12 et 13. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent, que la grâce, ça c'est pour nous, pour vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur nous bénisse, nous sommes en chemin, qu'on puisse se perfectionner les uns avec les autres, qu'on puisse grandir, mûrir, s'édifier, sanctifier nos vies, pour la gloire de Dieu, pour la paix dans l'Église. Pour que notre témoignage soit le reflet de son amour, de ses bénédictions, etc. Voilà. Bonne rentrée en tout cas. Bonne méditation. Bon examen, hein. Examinez tout ça, à la lumière de la parole de Dieu.